Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 19 juillet 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Fin hier soir de la convention des républicains à Milwaukee. Donald Trump est officiellement investi candidat à l'élection présidentielle de novembre. Joe Biden est isolé physiquement à cause du Covid et les appels se multiplient dans le camp démocrate pour qu'il se retire de la course à la présidence. Le régime militaire au Niger a annoncé des baisses des prix de l'essence et du gasoil à la pompe à partir du 23 juillet. Au Kenya, le président William Ruto nomme une dizaine de ministres mais vise un gouvernement élargi. Les systèmes informatiques de nombreuses compagnies à travers le monde ont été perturbés par une panne qui touche certains services de Microsoft. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La convention républicaine a pris fin hier soir après le discours très attendu de Donald Trump. Notre envoyé spécial, Dilly Dico, a recueilli les réactions des participants suite au discours du candidat républicain.
Donald Trump a officiellement accepté sa nomination en tant que candidat républicain à la présidentielle. Sous les applaudissements de quelques 50 000 participants venus à Milwaukee, il a pris le temps de détailler les événements de samedi lorsqu'il a de justesse échappé à une tentative d'assassinat. Donald Trump a vanté les succès de sa présidence, notamment en matière d'économie et de politique étrangère. Il a critiqué l'administration Biden pour sa gestion de la frontière sud des États-Unis et la politique migratoire des démocrates. Pendant 90 minutes, Donald Trump a galvanisé la foule jusqu'au lâcher de ballons aux couleurs de l'Amérique. Sous la musique et les cris des participants, il a été rejoint sur scène par sa famille. Tous les délégués et participants ont dit grandement apprécier le discours de Donald Trump. Demain, Donald Trump va repartir en campagne dans l'État du Michigan. La convention des démocrates se tiendra à la mi-août à Chicago. Dilly Dico, VOA Afrique, Milwaukee.
Au Kenya, le président William Ruto a nommé 11 ministres censés former le cœur d'un gouvernement élargi qui aura pour mission d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois. Le point avec Eric Manilakidze.
Les ministres de l'Intérieur, Kithure Kindiki, de la Défense Aden Barre Douale, de l'Environnement Rosalinda Soipan, Tuya et du Développement Urbain Alice Wahome ont été reconduits dans leurs fonctions tandis que deux autres ont changé de poste, Davis Churchill, du ministère de l'Énergie à celui des Routes et Rebecca Miano, du ministère du Commerce à celui de la Justice, une première pour une femme. Si des ministres étaient déjà dans le précédent gouvernement dissous le 11 juillet, William Ruto, pendant sa conférence de presse, était entouré du vice-président et du ministre des Affaires étrangères, seul ministre à ne pas avoir été limogé. Il a affirmé poursuivre les consultations pour compléter son équipe gouvernementale. La coalition d'opposition Azimio a déjà annoncé qu'elle ne va pas participer à son gouvernement, dénonçant des changements cosmétiques. Le Kenya est secoué depuis le 13 juin par des manifestations de jeunes qui ont été sévèrement réprimées par la police.
Le gouvernement camerounais a dénoncé jeudi la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent, venant de concitoyens et de leaders politiques dans la perspective de l'élection présidentielle en 2025. Ces déclarations interviennent après la publication mardi d'un arrêté par le préfet du département de Mfundi, où se trouve la capitale Yaoundé, menaçant d'une interdiction de séjour dans le département toute personne qui outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne. Les discussions entre les deux parties en guerre au Soudan et un émissaire de l'ONU sont une première étape encourageante. L'envoyé pour le Soudan du secrétaire général de l'ONU, Ramtan Lamamra, compte désormais sur les parties pour traduire rapidement leur volonté de dialoguer avec lui en progrès tangible sur le terrain, tant dans la mise en œuvre des accords existants que par d'éventuels engagements unilatéraux. Le régime militaire au Niger a annoncé des baisses des prix de l'essence et du gazoil à la pompe à partir du 23 juillet. Le but est de baisser le prix des transports et celui de plusieurs produits. Les détails avec Nani Talani.
À partir du 23 juillet, l'essence Super 91 coûtera 499 francs CFA le litre contre 540 francs CFA actuellement et le gasoil 618 francs CFA le litre contre 668 francs CFA actuellement. C'est une baisse de 7,5%, indique le gouvernement nigérien. L'objectif est de permettre la baisse du prix des transports et par conséquent celle des produits de première nécessité pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, précisent les autorités du Niger. Le gouvernement invite les opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services. Il a aussi donné des instructions pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude. En 2022, l'augmentation du prix du gasoil avait suscité un vif tollé dans ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil d'extrême pauvreté, d'après la Banque mondiale. Le Niger est devenu producteur de pétrole en 2011 et dispose d'une raffinerie de pétrole pour une modeste production de 20 000 barils par jour à Zender. Officiellement, les réserves prouvées du pays tournent autour de 2 milliards de barils.
Les autorités du Sud Kivu, une des provinces de la République démocratique du Congo les plus riches en minerais, ont annoncé vendredi la suspension de toutes les activités minières pour remettre de l'ordre dans le secteur. Dans un communiqué séparé, les autorités provinciales ont annoncé qu'une réunion sera organisée avec les sociétés minières et leurs coopératives partenaires le 30 juillet au bureau du gouverneur avec deux points à l'ordre du jour, état des lieux de l'exploitation minière dans la province et modalités de régularisation de l'exploitation minière. En Tunisie, Lofti Marahi, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre, a été condamné jeudi à 8 mois de prison et à une inéligibilité à vie, ont annoncé vendredi des médias, alors que des ONG dénoncent une multiplication des obstacles pour les rivaux potentiels du président Kais Saied. Le chef de l'Union populaire républicaine, un parti de gauche opposé au président Saied, avait été arrêté le 3 juillet pour des soupçons de corruption financière. Plusieurs autres personnalités politiques ayant annoncé leur candidature sont poursuivies en justice ou en prison.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une panne informatique mondiale a affecté de nombreuses entreprises utilisant le système Windows du géant américain Microsoft en raison d'un problème de mise à jour. Nathalie Barge.
De nombreux transports, entreprises et marchés financiers ont été perturbés par une panne due à une mise à jour défectueuse sur Windows d'un logiciel de sécurité. Le bug s'est déclenché hier à 19h GMT. La mise à jour de l'antivirus Falcon Sensor de CrowdStrike a soudainement empêché les ordinateurs de démarrer. La panne a fortement touché le secteur aérien dans le monde. Air France a annoncé que des activités ont été perturbées dans certaines escales, tandis que les principales compagnies aériennes américaines comme Delta, United et American Airlines ont vu leurs avions cloués au sol en raison d'un problème de communication. American Airlines et d'autres entreprises ont annoncé la reprise de leurs activités. Microsoft a indiqué que la cause du problème a été corrigée et plusieurs applications et services ont retrouvé leur pleine fonctionnalité. Pour régler ce bug, il faut aller dans le système et supprimer un fichier afin de pouvoir redémarrer l'ordinateur, ont indiqué les experts. Il s'agit d'un processus manuel à effectuer sur chaque appareil affecté, ce qui peut prendre du temps dans les grandes entreprises.
La plus haute juridiction de l'ONU a jugé vendredi que l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 était illégale et qu'elle devait cesser le plus rapidement possible, une décision qualifiée d'historique par les Palestiniens et de mensongère par Israël. Une cinquantaine d'États ont témoigné dans cette affaire sans précédent. L'avis rendu par la Cour internationale de justice qui siège à La Haye n'est pas contraignant. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré vendredi que l'Iran a la capacité de produire des matières fissiles en vue de fabriquer une arme nucléaire dans un délai d'une ou deux semaines. La situation actuelle n'est pas bonne. L'Iran, en raison de la fin de l'accord nucléaire, au lieu d'être à au moins un an, d'avoir la capacité de produire des matières fissiles pour une arme nucléaire, est maintenant capable, probablement à une ou deux semaines, de pouvoir le faire, a affirmé M. Blinken lors d'un forum dans le Colorado, précisant que l'Iran n'a pas mis au point une arme. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le gouvernement guinéen a signé ce vendredi un partenariat public-privé pour le développement avec le producteur d'alumine français Alteo et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'objectif de ce partenariat est de former une main-d'œuvre qualifiée et de mettre en place une chaîne de transformation de la bauxite. L'ONUDI et Alteo travailleront pour renforcer les compétences à travers l'organisation de la future école de formation professionnelle de l'alumine de Conakry qui proposera 130 spécialisations pour 30 métiers du secteur. Au Burkina Faso, la mine d'or Bomboré a livré 55 663 onces d'or au premier semestre 2024, en baisse de 27% en glissement annuel, indique ses résultats publiés jeudi. Orzone Gold a réaffirmé son objectif de produire environ 120 000 onces d'or cette année contre plus de 140 000 l'an dernier. La production d'or au Burkina Faso s'est établie à 57,3 tonnes d'or en 2023. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 260,4 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour soutenir son programme de transformation de l'agriculture. Le projet permettra d'accroître la production de riz, manioc, maïs et soja afin de réduire les importations alimentaires qui correspondent à 20% du budget national. Il s'agit d'améliorer durablement les rendements et de faciliter l'accès au marché.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Football, la fédération anglaise lance un appel à candidature pour succéder à Southgate.
La fédération anglaise de football qui a identifié un certain nombre de candidats pour remplacer Gareth Southgate a lancé un appel à candidature détaillant les qualités requises pour devenir sélectionneur de l'Angleterre. Southgate a démissionné mardi à la suite de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne. La fin de ce règne qui a duré 8 ans a contraint la FA à s'intéresser à une multitude de candidats. La personne recherchée devra fournir un leadership inspirant à l'équipe technique de la FA et développer des relations solides avec les clubs qui emploient des joueurs qualifiés pour l'Angleterre. Le candidat retenu devra être titulaire d'une licence professionnelle de l'UEFA, posséder une expérience significative du football anglais et avoir de solides antécédents en matière de résultats en Premier League et ou dans des compétitions internationales de premier plan. Parmi les favoris des bookmakers figurent Eddie Howe, le manager de Newcastle, Graham Potter, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Chelsea, ainsi que Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham.
Ligue des Nations Belgique-Israël se jouera sur un terrain neutre en Hongrie.
Le match à domicile de la Belgique contre Israël pour la première journée de la Ligue des Nations a été délocalisé à Debrecen en Hongrie et se jouera à huis clos, a annoncé la Fédération belge vendredi. Le 19 juin dernier, la ville de Bruxelles avait annoncé que la rencontre ne se jouerait pas au stade Roi Baudouin. Les autorités avaient jugé impossible l'organisation de ce match à très haut risque sur le territoire de la ville en raison des tensions liées au conflit israélo-palestinien. Dans la foulée, d'autres villes belges avaient également refusé d'accueillir ce match.
Jeux olympiques de Paris, la Seine et les monuments de Paris au cœur de la cérémonie d'ouverture.
Notre-Dame, le Louvre, le musée d'Orsay, la Seine et les monuments emblématiques de Paris seront au centre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, tenue secrète jusqu'au jour J, vendredi prochain, qui mêlera art et sport au cœur de la ville lumière. Seulement une dizaine de personnes connaissent le déroulé de ce spectacle célébrant la diversité et l'altérité qui commencera à 19h30, durera 3h45 et entend casser les codes en se tenant pour la première fois hors d'un stade. Et c'est tout pour les sports.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Convention nationale républicaine s'est terminée jeudi soir avec un discours du candidat officiel du parti à la Maison-Blanche, l'ancien président Donald Trump. Il a assisté à la convention toute la semaine, mais jeudi était son premier discours public depuis qu'il avait été la cible d'une tentative d'assassinat samedi dernier. Caroline Prisuti, envoyée spéciale de la VOA à Milwaukee, le récit avec Chérubin Dorsil.
J'accepte votre nomination.
Le Congrès garde toujours le meilleur pour la fin, mais ici, l'attente a été encore plus grande pour le discours de l'ancien président, compte tenu de ce qui s'est passé samedi. Donald Trump a commencé à parler lentement, beaucoup plus sobre, pour raconter la douleur qu'il a ressentie lors du rassemblement de samedi.
Qu'est-ce que c'était? Ce ne peut être qu'une balle. Et j'ai levé la main droite et elle était couverte de sang.
Pendant la semaine du Congrès, cette photo rappelait quotidiennement aux délégués leur candidat, fort, résilient, un homme que même la balle d'un assassin n'a pu arrêter. Il a promis que cette force s'étendrait à l'étranger. Trump a déclaré que ni la guerre en Ukraine, ni le conflit entre Israël et le Hamas n'auraient eu lieu sous sa présidence.
Un spectre croissant de conflits plane sur Taïwan, la Corée, les Philippines et toute l'Asie. Notre planète est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Ce sera une guerre pas comme les autres à cause des armes.
Il a écrit son discours des semaines auparavant, mais y a apporté des changements évidents avec une sonorité plus religieuse, étant donné qu'il a frôlé la mort.
Je me tiens devant vous dans cette arène par la grâce de Dieu Tout-Puissant.
Reconnu coupable de 34 chefs d'accusation, il a accusé l'administration Biden d'instrumentaliser le système judiciaire, de créer une forte inflation et d'ouvrir la frontière à la drogue et aux criminels.
Nous voulons que les gens viennent dans notre pays, mais ils doivent y entrer légalement. Et le prochain vice-président, J.D. Vance.
Dans la loge présidentielle se trouvait le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, 39 ans, choisi comme colistier de l'ancien président. Également, Melania Trump, l'ancienne première dame, qui est apparue pour la première fois à la convention. Les analystes politiques, comme Shannon Beau O'Brien de l'Université du Texas, voient un parti républicain avec un nouveau message d'inclusion.
Regardez à quel point nous sommes diversifiés, à certains égards. Regardez à quel point nous sommes amicaux, à certains égards. Regardez à quel point les démocrates sont chaotiques. Regardez à quel point nous sommes unis. Et ensemble, nous sommes une valeur plus sûre.
Trump, dans son message, n'a pas insisté sur l'unité, mais certains délégués l'ont senti.
Tout le monde se rassemble. Nous sommes le parti du peuple.
Ce délégué du Wisconsin porte un morceau de fromage en plastique comme chapeau sur sa tête.
Nous sommes tellement excités par ce mouvement, par une vague rouge et par l'élection de Donald Trump et de J.D. Vance à la Maison-Blanche cette année.
À partir de là, le message Trump-Vance sera porté jusque dans l'Amérique profonde qu'ils vont sillonner pendant la campagne. D'ailleurs, Donald Trump doit se rendre demain samedi dans le Michigan, exactement une semaine après avoir échappé à des tirs à bottes dans le nord de la Pennsylvanie.
Le président Joe Biden est confronté à un isolement physique et politique jeudi. Il est atteint du Covid à un moment critique de sa campagne et de plus en plus de démocrates le pressent de se retirer de la course à la présidence. Le reportage de Patty Widakuswara, correspondante de VOA à la Maison Blanche, récit de Nani Talani.
President Donald J. Trump.
Les républicains se sont unis derrière leur candidat, l'ancien président Donald Trump, lors de leur convention nationale. Mais pour le président Joe Biden, la scène est plus solitaire. Atteint du Covid, il s'est isolé dans sa maison du Delaware alors que d'éminents démocrates lui demandent de se retirer de la course. Larry Sabato, de l'Université de Virginie.
Les démocrates n'arrivent même pas à décider si Joe Biden est vraiment en difficulté ou non. Et s'il l'est, comment le sortir de la course? Et s'il le sort de la course, qui devrait le remplacer et comment? C'est assez fondamental. Pendant ce temps, les républicains se sont ressaisis. Ils ont eu une excellente convention. Et Donald Trump, en partie, à cause de la tentative d'assassinat, a probablement plus de soutien public qu'il n'en a jamais eu.
En privé, le président Joe Biden serait à l'écoute des préoccupations, mais en public, il résiste aux appels à se retirer. Le président américain Joe Biden.
J'ai démontré que je savais comment faire avancer les choses pour le pays, malgré le fait qu'on nous ait dit que nous ne pouvions pas le faire. Mais il reste beaucoup à faire et je suis réticent à l'idée de m'en éloigner.
65% des démocrates ont déclaré que M. Biden devrait se retirer, selon un sondage à PNORC. Le système Keys to the White House, autrement dit les clés pour la Maison-Blanche, de l'historien Alan Lichtman de l'American University, a prédit avec précision tous les résultats des élections américaines depuis 1984, à l'exception d'un seul. Il estime que les démocrates devraient s'en tenir à Joe Biden. Alan Lichtman de American University.
C'est le comble de la folie et de l'ignorance que de prétendre savoir, en se basant sur les sondages qui changent constamment, qui va gagner et qui va perdre, et qu'il faut forcer les candidats à se retirer juste parce qu'on pense qu'ils ne peuvent pas gagner.
Le système de M. Lichtman ne tient pas compte des sondages, notamment du fait que 70% des Américains ont affirmé qu'ils ne sont pas convaincus que M. Biden a les capacités mentales nécessaires pour être président. Pour Trump, c'est 51%. Tout le monde peut deviner ce qui va se passer maintenant. Si Joe Biden accepte de se retirer, le scénario le plus ordonné serait qu'il soutienne un candidat alternatif. La vice-présidente Kamala Harris serait un choix logique, du moins sur le plan financier, car en tant que membre de la coalition Biden-Harris, elle hériterait de leur trésor de campagne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Biden a annoncé une nouvelle trêve de 15 jours dans l'est de la République démocratique du Congo après l'échec d'une précédente trêve. Comment l'administration Biden peut-elle maintenir la paix et quelles sont les conséquences si les choses se détériorent à nouveau? Suivez ce reportage de Anita Powell de la VOA depuis Washington, le récit avec Eric Manilakid.
La nouvelle trêve vise à durer jusqu'au 3 août, a déclaré la Maison-Blanche, donnant aux diplomates la possibilité de résoudre cette flambée de violence entre la République démocratique du Congo et le M23. L'administration Biden estime que ce conflit situé dans le nord-est de cet immense pays pose une véritable menace pour la paix et la sécurité mondiale, a déclaré jeudi à la VOA un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de M. Biden. Le porte-parole du département d'État, Verdant Patel, a mis l'accent sur la diplomatie.
C'est un sujet sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec les partis. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux afin de parvenir à une cessation durable des hostilités et de fixer les conditions pour le retour volontaire des populations déplacées.
Il n'a pas donné de détails lorsqu'on lui a demandé comment l'administration Biden envisageait de travailler avec le gouvernement rwandais qui n'y soutenir le groupe rebelle. La dernière trêve a été rompue lundi avec un incident dans la ville de Bweremana et a fait au moins 4 morts. La porte-parole du Conseil national de sécurité, Adrienne Watson, a condamné ces meurtres, mais a ajouté que les parties au conflit ont largement respecté la trêve. Les responsables humanitaires affirmaient que la situation à Goma, capitale du Nord Kivu, est exceptionnellement désastreuse.
La situation humanitaire est littéralement indescriptible. Ça se voit dans cette ville de Goma où je réside, où à tous les carrefours, à tous les ronds-points, devant tous les magasins, tous les bars, il y a toute une population de mendiants telle qu'on n'en avait jamais vu. Des femmes avec des bébés au dos, aux épaules, etc., qui essaient de trouver de la charité. Parce que cette crise, elle est massive, cette crise, elle est, je dirais, gigantesque, mais comme le disent avec raison les humanitaires, c'est une crise oubliée.
Onesphore Matumba est un analyste basé à Goma pour l'International Crisis Group. Lors d'un podcast diffusé mercredi sur le sujet, il a déclaré que la ville est envahie par des personnes déplacées et désespérées qui implorent de l'aide.
Donc on se dirigerait vers une catastrophe telle qu'on ne l'aura peut-être pas vécue, même au plus fort de la guerre de 1996, qui avait drainé presque tous les pays africains, toutes les armées africaines dans le ventre mou du continent, qu'est la République démocratique du Congo. Donc tout le monde retient son souffle et tout le monde essaie de s'accrocher à des balbutiements diplomatiques.
Monsieur Patel du département d'État a également indiqué que Washington avait alloué plus de 620 millions de dollars d'aide humanitaire à la RDC au cours de l'année fiscale 2023.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Les Jeux Olympiques s'ouvrent le 26 juillet prochain à Paris. Au Burkina Faso, même si le pays fait face à des défis comme notamment sécuritaires, ils seront au moins 4 athlètes à représenter le pays avec une énorme chance de remporter au moins une médaille. Les Burkinabés sont confiants et apportent tout leur soutien aux athlètes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le Burkina va présenter 8 athlètes à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sur les 8. 3 ont déjà participé aux JO de Tokyo 2020 tenus en 2021 pour cause de coronavirus. Dans les rues de Ouagadougou, les Burkinabés prient pour les athlètes, surtout pour le grand favori, Hugues Fabrice Zango.
Selon moi, je pense qu'il pourrait revenir avec la médaille et c'est le souhait de tous les Burkinabés. Voilà, parce qu'il a déjà montré ses compétences et il reste maintenant la bénédiction et nous le souhaitons qu'il revienne avec la médaille.
On peut compter sur Hugues Fabrice Zango parce que quand vous voyez un athlète qui est prêt, vraiment il fait partie des athlètes qui sont prêts. Alors rien ne fait un athlète aujourd'hui si ce n'est pas l'entraînement. Et quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui se donne très bien à son travail.
Ce journaliste sportif de Radio Omega va se rendre à Paris pour la couverture de ces Jeux Olympiques. Il est spécialisé en athlétisme et il connaît très bien les représentants burkinabés.
Ce sera la 8e participation du Burkina Faso aux Jeux Olympiques. La première date de 72, sauf qu'il y a eu des années où le Burkina Faso n'a pas qualifié d'athlète. Il y a eu des années aussi où certains pays africains ont décidé de boycotter la compétition. Et pour cette édition, il y a quand même des chances de médaille. Le Burkina est engagé avec 8 athlètes et c'est la première fois que le pays qualifie autant d'athlètes pour les Jeux Olympiques. Il y a 2 athlètes qui vont compétir en athlétisme, Hugues Fabrice Zango et Marthe Kwala. Il y aura 2 athlètes en taekwondo, Ibrahim Maïga et Fessala Sawadgo. Il y a Awa Bamugo qui est engagé en cyclisme. Il y a Carmel Kone qui va défendre les couleurs du Burkina Faso en judo. Et on a 2 nageurs également retenus pour ces championnats d'Afrique. Dans le principe de l'universalité des Jeux Olympiques, ce ne sont pas des nageurs qui ont obtenu, qui ont réalisé des minima. Voilà, on donne la possibilité à certaines disciplines d'inviter des athlètes.
Selon le spécialiste, le pays a une chance de remporter au moins une médaille lors de ces Olympiades qui vont réunir les meilleurs athlètes de la planète dans beaucoup de disciplines.
La plus grosse chance de médaille pour le Burkina Faso, c'est Hugues Fabrice Zango qui a remporté la médaille de bronze à Tokyo. Hugues Fabrice Zango qui est également champion du monde, mais il aura en face une forte concurrence, hein, notamment ce jeune espagnol, cubain d'origine, naturalisé espagnol, junior Jordan Diaz, qui monte en puissance et qui a réalisé une performance de 18 m au dernier championnat d'Europe. Il y a également le médaillé d'or olympique Pedro Picardo, le portugais, qui sera là pour défendre son titre.
Les Jeux olympiques, c'est encore dans quelques jours, tous les regards seront tournés vers Paris. Les Burkinabés sont confiants pour la plupart. Le Burkina espère, l'Afrique aussi. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.